William Hornung, celui qu'on n'attendait pas. Les cloches de l'église sonnaient l'office du soir, et les coups se répandaient à travers la campagne, ensevelis sous la neige, brèves et dures comme si la gelée avait rongé le bronze et lui avait donné un son rauque. Au dehors, le paysage avait tout le féerique décor et tout le paisible étincellement de cartes de Christmas du bon vieux temps. Tout s'y trouvait exactement représenté. Le village, couvert de neige, le clocher de l'église blanchi d'un côté du haut en bas, les vitraux du chœur semblables à des tableaux à l'huile, le croissant argenté de la lune, la chaumière idéale avec son chaume épais et la lumière rouge et chaude qui brillait par la porte ouverte, et enfin le calme céleste qui semblait dominer et envelopper toutes ces choses. Pourtant, nous savions fort bien que dans la réalité, il n'y a pas de paix si complète en ce monde, et la porte de la chaumière idéale avait été ouverte et refermée par une femme déjà voûtée, à qui son mari venait de refuser quelques pennies pour la quête, en lui jetant une malédiction en guise d'adieu, tandis qu'elle s'en allait sur la route toute blanche. Et l'odeur qui prédominait sous l'épais toit de chaume était une odeur prononcée de grog, à laquelle se mélangeait la fumée âcre d'un tabac très fort. Le vieux Fitch avait dépassé la soixantaine, et celle qui venait de le quitter pour se rendre à l'église était sa troisième femme. Elle ne lui avait donné aucun enfant, il ne lui restait de ses précédentes unions aucun fils ni aucune fille dont il put attendre la visite. C'était un singulier vieillard, égoïste et sournois, qui pourtant jouissait d'une assez bonne réputation dans le voisinage et qui avait en outre l'avantage de posséder une santé et une énergie peu communes à son âge. Il buvait sans se retenir tant qu'il avait soif et cependant jamais on ne le voyait ivre. De son métier, il était marchand de gibier, commissionnaire en blé, prêteur et créancier hypothécaire de la moitié du village. Physiquement, c'était un homme de taille moyenne, aux jambes arquées, aux épaules énormes et arrondies, à la bouche dure, aux yeux vifs et aux cheveux blancs, comme la neige qu'il y avait dehors. Après un déjeuner assez copieux, le vieux Fitch s'était déjà endormi dans une première fois sur son journal, mais il n'avait pas eu le temps d'en lire les pages les plus intéressantes, et il les trouvait maintenant plus attrayantes encore que d'habitude. Il y avait plusieurs suicides, une admirable exécution capitale, un cambriolage, etc. Mais soudain, Fitch fronça le sourcil, tandis que son œil furteur rencontrait un nouveau paragraphe, et aussitôt, il proféra un juron étouffé et devint complètement immobile. Sa pipe s'éteignit et son grog se refroidit dans son verre. On entendait maintenant chanter les psaumes à l'église, mais le vieillard n'entendait rien, ne voyait rien, ne pensait à rien qu'au bref paragraphe qu'il avait sous les yeux. Trois forçats s'évadent de Portland, l'un d'eux est tué, l'autre blessé, le troisième parvient à déjouer les poursuites. C'est avec la plus vive émotion que l'on a appris hier matin à Weymouth que plusieurs forçats avaient réussi à s'évader du pénitencier de Portland. Il semblait évident que plusieurs détenus affectés aux équipes qui travaillent dans les champs avaient combiné longuement un projet d'évasion pour reconquérir leur liberté, car trois d'entre eux se sont simultanément sauvés hier matin. On leur enjoignit aussitôt de s'arrêter, mais comme ils n'obéissaient pas à cet ordre, les gardiens ont tiré sur eux plusieurs coups de fusil. L'un des fugitifs a été tué net, un autre fut si grièvement blessé qu'on le captura sans peine immédiatement, et il est maintenant dans un état désespéré. Le troisième, nommé Henry Cattermole, poursuivit sa course sous les balles et ne tarda pas à être hors de portée de fusil avant qu'on ait pu l'attraper. On lui a donné la chasse pendant un certain temps, mais en raison du brouillard intense qui régnait à ce moment, on eut vite fait de perdre sa trace. Des battues ont été organisées en tous sens, et on a continué à le rechercher longtemps après la tombée de la nuit, mais à l'heure où nous mettons sous presse, on ne l'a pas encore retrouvé. Rappelons que Cattermole fut condamné à mort il y a quelques années sous l'inculpation d'avoir assassiné le garde-chasse de Lord Walborough près de Bury St. Edmunds, mais sa peine fut ensuite commuée en travaux forcés en raison du doute que suscita la production d'une bourre qui ne s'adaptait pas au fusil dont il se serait servi. Malgré les charitables tentatives dont il fut alors l'objet, les autorités de Portland assurent que Cattermole était au contraire un criminel des plus audacieux et que tant qu'il restera en liberté, il constituera un véritable danger public. Après avoir lu ces mots, Fitch resta plusieurs minutes à les regarder d'un air plein d'hébétude et il ne vit bientôt plus que la dernière phrase « Henri Cattermole en liberté ». Mais depuis combien de temps était-il en liberté? C'était un journal du dimanche, mais de l'édition du samedi, et cette note se trouvait parmi les nouvelles de la dernière heure. Mais elle disait hier matin, et cela voulait dire vendredi matin au moins. Donc Henri Cattermole était en liberté depuis ce temps-là, et c'était aujourd'hui dimanche soir, ce qui se faisait en tout près de 3 jours. Une autre question s'imposa immédiatement après à l'esprit du vieillard. Quelle était la distance qui séparait la prison de Portland de cette chambre ? « Bon, que le diable l'emporte ! » s'écria-t-il tout haut. « Pourquoi donc n'a-t-on pas pendu ? Au moins, il m'aurait laissé la paix. Si on pouvait le rattraper et le prendre à cette heure, j'en serais bien aise, car tant que je serai Henri Cattermole en liberté, je ne me sentirai pas tranquille. » Le vieux Fitch ouvrit un instant sa porte. La lune pâle étincelait sur la neige, mais on ne voyait âme qui vive. Et pour la première fois de sa vie, il éprouva le besoin d'avoir un compagnon. Néanmoins, l'air glacial faisait paraître plus proche les voix du cœur qui chantait à l'église. Et cela réconforta un peu. Tandis qu'il refermait la porte, tournait la grosse clé dans la serrure et poussait soigneusement les 2 verrous. Il était encore baissé sur celui du bas, quand son regard rencontra une jambe de pantalon en loques et un gros bas de laine planté devant lui. Ils furent immédiatement rejoints par une autre jambe en loques et un autre gros bas de laine. Cela n'avait fait aucun bruit, car les pieds qui en étaient vêtus ne portaient pas de chaussures et marchaient avec la précaution d'un chat. Et ses bas avaient ceci de remarquable, qu'ils étaient striés de raies horizontales et voyantes. Alors le vieux Fitch comprit que son ennemi l'avait rejoint, et il se sentit incapable de faire aucun mouvement. Il s'attendait à ce qu'un couteau se plantât au milieu de son large dos arrondi, et quand au lieu de cela, une main le frappa à cet endroit, il crut qu'il était bel et bien poignardé. Lorsqu'il s'aperçut de son erreur, il se retourna en restant toujours baissé dans la même attitude piteuse. Et il éprouva alors une nouvelle secousse. Se pouvait-il que cet homme fût Henri Cattermole ? Le braconnier qu'il avait connu était gros et trapu. Et le forçat qu'il avait devant lui était au contraire maigre et décharné. Celui-là avait le teint fleuri et respirait la jeunesse. Celui-ci avait la figure jaune comme du parchemin et les cheveux qui garnissaient son crâne tondu ainsi que la barbe qui apparaissait sur ses joues émaciées étaient d'un gris de plomb. « Mais c'est pas possible, vous n'êtes pas Henri Cattermole !» balbutia le vieux. « Mais non, je ne le suis pas en effet, mais je l'ai été et je veux le redevenir. Conduisez-moi près du feu que je me réchauffe. » Vous devriez bien sûr vous servir de temps en temps de votre grande salle qui est là, sur le devant. Il y a une demi-heure que j'y suis. Oh, il fait bigrement froid. » Le vieux Fitch s'éloigna de la porte, s'avança vers la cheminée sans avoir l'air de penser un mal, puis soudain bondit pour prendre son fusil. Mais il ne put l'atteindre, le canon d'un revolver braqué contre son oreille le força à reculer en chancelant. « Vieil imbécile !» s'écria Quatermolle d'une voix sifflante. « Vous imaginez-vous donc que j'étais venu ici sans être armé? Allez, asseyez-vous dans ce fauteuil où je vous brûle la cervelle. » Fitch obéit. « Je ne peux pas m'expliquer, bredouilla-t-il, pourquoi vous êtes venu me trouver ?»« Naturellement, » répondit Quatermolle d'un ton ironique. « Mais si j'avais été à votre place, moi, je me serais sauvé n'importe où, plutôt que de revenir dans un pays où l'on me reconnaîtrait si bien. »« Ah, vraiment ? Alors vous saviez que je m'étais évadé, vieux ? » Je viens de lire cela dans le journal que voici. Ah oui, oui, je comprends. J'ai surpris quelques mots de ce que vous disiez à vous-même pendant que j'attendais un moment favorable pour sortir de votre maudite salle où l'on gèle. Alors c'était à mon intention que vous vous barricadiez si bien votre porte. Et malgré cela, vous avez le toupet de dire que vous ne savez pas pourquoi je suis venu ici. Allons donc. Le forçat s'était assis sur la table de la cuisine et ses yeux étaient obstinément fixés sur ceux du vieillard tremblant, affalé dans son fauteuil. Il portait un long par-dessus et avait en dessous des haillons pitoyables. Seule sa tête rasée et ses jambes embarrayées, qu'il balançait nonchalamment dans le vide, le désignaient comme un évadé du bagne. Et le vieux Fitch regardait tour à tour cette tête et ses jambes, se demandant par quel miracle il ne lui avait pas épargné cette pénible entrevue. Quatermolle devina aussitôt le fond de sa pensée, et son regard étincela. « Oh, vous imaginez pas que j'ai fait tout ce chemin avec ces machines-là » s'écria-t-il en se tapant sur les mollets. « Non, non, je marche pieds nus. Je marche pieds nus si longtemps que j'en ai eu les jambes complètement gelées. » Et que j'ai été obligé de me cacher derrière une haie pour remettre ses bas et me frotter les pieds afin de rétablir la circulation. Et cette vieille défroque, d'où croyez-vous qu'elle vienne? Ben, je l'ai prise dans un champ, un épouvantail. J'étais pas assez bête pour m'introduire dans les maisons et laisser partout des traces de mon passage. Mais hier, j'ai pu parcourir une longue distance en sautant sur un train de marchandises. Autrement, je ne serais pas ici à l'heure qu'il est. Et hier, je me suis tout de même risqué à entrer dans une maison pour me procurer ce par-dessus et de quoi souper. Et j'en ai visité une autre pour avoir ce revolver. À ce moment-là, ça avait plus tant d'importance puisque j'étais à moins de 20 000 de chez vous. De chez vous, vieux bandit, m'entendez-vous ? Fitch, qui était devenu livide, hocha la tête avec abattement. « Et maintenant, savez-vous pourquoi je suis venu ?» Fitch passa sa langue sur ses lèvres desséchées. « Pour m'assassiner » balbutia-t-il d'une voix éteinte, comme un homme qui se sent sur le point de mourir. « Ça dépendra de vous, » répliqua le forçat en jouant avec son arme. « Mais que voulez-vous que je fasse ? Ben, que vous avouiez ? Que j'avoue quoi ?» bredouilla Fitch. « Eh bien, vous m'avez fait condamner au moyen d'une fausse déposition. » Le vieillard, qui depuis quelques instants n'osait même plus reprendre haleine, exhala alors un profond soupir, et tirant de sa poche un grand mouchoir rouge, épongea son front en sueur. Pendant ce temps, le forçat, qui avait découvert sur un chiffonnier de quoi écrire, apporta sur la table une plume, de l'encre et du papier, et les avança près de la bouteille d'eau-de-vie et du pot à tabac à portée de la main du vieillard. « Tournez votre fauteuil pour écrire, » lui dit-il. Fitch obéit. « Maintenant prenez cette plume et écrivez ce que je vais vous dicter, sans quoi, aussi vrai que je m'appelle Quatermolle, vous êtes un homme mort. » Fitch trempa sa plume dans l'encre. « Après tout, ce qu'il allait écrire serait écrit sous l'empire de l'intimidation, et personne n'attacherait d'importance à une déclaration obtenue de la sorte. Je sous-signais Samuel Fitch, commença Cattermole. Déclare par le présent acte et jure solennellement devant Dieu. Oui, solennellement devant Dieu, ça y est, que j'ai, moi, Samuel Fitch, porté un faux témoignage contre mon voisin Henri Cattermole lors de sa comparution devant la cour d'assises du Buir le 29 novembre 1912. Il est exact que j'ai vu Henri Cattermole ainsi que James Savage, le garde-chasse de Lord Walbrough, dans le bois de Walbrough, pendant la nuit du 9 septembre de la dite année. Il est exact que j'étais là, sur rendez-vous, pris avec Savage, comme sa femme l'a déclaré depuis sa déposition. Mais il n'est pas exact, que j'ai entendu une détonation et que j'ai entendu Savage crier « Henri Cattermole !» lorsque je suis accouru et avant d'avoir échangé un seul mot avec lui. Cette assertion a été inventée de toutes pièces par moi. La vérité... Attendez, je crois que je vais trop vite pour vous. Il y a si longtemps que ces mots me trottent dans la tête, aujourd'hui je les récite comme une leçon. Voyons, où en êtes-vous? Inventée de toutes pièces par moi, répéta le vieux Fitch d'une voix tremblante en attendant la suite. Bien, bon. À présent, attention. Tâchez de vous réduire un peu, dit Cattermole, en armant brusquement son revolver. La vérité, c'est que c'est moi, Samuel Fitch, qui ai tué James Savage de ma propre main. Fitch jeta sa plume. Oh, c'est faux! S'écria-t-il en suffoquant. « Je ne l'ai pas tué. Je refuse d'écrire cela. » Le forçat avança vers lui son revolver tout armé. « Vous préférez mourir dans votre fauteuil, alors ?»« Oui. » « Je vous accorde une minute pour réfléchir, et c'est votre montre qui va vous servir à compter. » Tenant toujours son revolver braqué sur le vieillard, il allongea son autre main pour prendre la montre, et ses doigts entrèrent un instant en contact avec la main moite et glacée de son ennemi. Puis, Cattermole posa la montre sur la table à un endroit d'où elle était visible à tous deux. « Votre minute commence à présent, » annonça-t-il. Fitch mit à balancer la tête à droite et à gauche. Le tic-tac de sa montre lui paraissait aussi sonore que celui d'une grosse horloge. « 15 secondes, » dit Cattermole. Le front du vieillard était aussi blanc et aussi étincelant que la neige du dehors. « Nous sommes à la moitié, » dit Cattermole. 5, 10, 15, 20 secondes passèrent. Alors Fitch reprit sa plume. « Continuez, » demanda-t-il d'une voix sourde. « J'écrirai tous les mensonges qui vous plaira, mais cela vous avancera à rien. Personne ne consentira à y croire. » Néanmoins, la sueur lui coulait le long du visage, si abondante qu'il en tomba quelques gouttes sur son papier, tandis qu'il se remettait à écrire sous la dictée du forçat. « La vérité, c'est que c'est moi, Samuel Fitch, qui ai tué James Savage de ma propre main. Plus tard, je ferai des aveux plus complets et j'expliquerai à la suite de quelles circonstances j'en suis arrivé à le tuer. Lorsqu'il fut tombé, j'entendis quelqu'un crier et s'approcher en courant. Je me cachai derrière un arbre et je vis Henri Cattermole, le braconnier, buté dans le corps et tombé. Son fusil se déchargea en l'air et quand il essaya de se relever, je vis qu'il ne pouvait pas parce qu'il s'était foulé la cheville. Il ne m'a pas vu un seul instant. Alors je me suis sauvé sans bruit, j'ai raconté ma fausse histoire. On a rattrapé Henri Cattermole au moment où il essayait de s'échapper du bois en se traînant sur les genoux et sur les mains. Il avait du sang aux doigts et sur ses vêtements et son fusil étaient déchargés. J'ai témoigné contre lui pour l'empêcher de témoigner contre moi. Mais je l'affirme sur tout ce qu'il y a de plus sacré. Ce que je viens de dire est la vérité, rien que la vérité. Catherwall s'interrompit. Fitch acheva d'écrire. Une fois encore, les yeux des deux hommes se rencontrèrent, et ceux du plus âgé prirent une expression curieuse. « Mais comment avez-vous fait pour savoir cela ? » demanda-t-il en abaissant le ton de sa voix et en penchant le corps en avant. « Système de déduction, » répondit l'autre. « J'ai tiré mes conclusions sitôt que je vous ai vu à la barre. Mais jamais on n'ajoutera foi à cet acte rédigé comme il l'est. Vous croyez cela ? Attendez un peu, mon brave, c'est pas fini encore. Comme preuve de ce que j'avance, vous m'entendez ? Eh bien alors, écrivez. Comme preuve de ce que j'avance, on trouvera le fusil auquel s'adapte la bourre grâce à laquelle Henri Catherwall a eu la vie sauve. » Catherwall attendit que le vieillard l'eût rattrapé. « À présent, dit-il, achevez la phrase vous-même. »« Mais comment ? » s'écria Fitch. « Désignez l'endroit où l'on pourra retrouver ce fusil. »« Vous savez où il est, moi, j'en sais rien. » »« Et après, signez. » »« Mais moi non plus, je ne sais pas. »« Mais si vous le savez, je l'ai vendu. » »« Vous n'auriez pas osé. » »« Vous l'avez caché quelque part, je lis ça sur votre figure. »« Écrivez ici où vous l'avez caché, puis montrez-moi l'endroit. »« Et si vous m'avez menti ?» Le revolver était contre la tête du vieillard, qui s'était penché en avant entre ses deux mains. Sa plume, encore humide, était tombée et avait fait un pâté sur le papier. Catherwall saisit la bouteille d'eau-de-vie et poussa le verre sous le nez de son ennemi. « Avalez ça, dit-il, et puis écrivez ce qu'est, sans mentir et signez. Il est possible qu'on ne vous pende pas en raison de votre âge. » Mais par Dieu, quant à moi, je n'y regarderai pas à deux fois pour vous mettre une balle dans la tête si vous n'écriviez pas la vérité. » Fitch absorba d'un trait la rasane d'alcool qui lui était offerte et reprit sa plume. Il achevait presque d'écrire son propre arrêt de mort lorsque le forçat, sautant légèrement à bas de la table, vint se planter au milieu de la pièce et s'y arrêta pour écouter. Fitch s'en aperçut et prêta également l'oreille. On chantait maintenant un autre psaume à l'église. Le vieillard vit d'abord sa montre rester sur la table, que ce devait être le dernier, et que, par conséquent, dans quelques minutes, sa femme serait de retour. Mais ce n'était pas tout. Il y avait un autre bruit qui avait attiré son attention et celle de son compagnon. Un bruit beaucoup plus rapproché, un bruit de voix qu'on entendait dehors tout contre la porte de la chaumière. Quelqu'un tourna la poignée, quelqu'un essaya de pousser la porte, mais Fitch lui-même l'avait barricadé. Il y eut de nouveaux murmures, puis deux ou trois coups frappés avec violence. « Qui est là ?» s'écria Fitch, tout tremblant d'émotion, en se levant avec peine. « Nous sommes de la police. Ouvrez, nous, sans quoi nous enfonçons la porte. » Ils n'obtinrent pas de réponse. Catherwall observait la porte. Soudain, il se retourna et surprit Fitch au moment où il allait jeter sa confession dans le feu. Le forçat s'en saisit avant que les flammes eussent eu le temps de la dévorer, et de l'autre main, il envoya brutalement le vieillard retomber dans son fauteuil. « Achevez !» lui enjoignit-il d'une voix étouffée, « ou je vous brûle la cervelle. Il faut que l'un de nous deux soit pendu. Allons, voyons, avouez maintenant. Sous le plancher de quelle chambre vous avez caché ce fusil ? Laissez-les cogner, la porte est solide. Dans quelle pièce, voyons ? Ah, dans votre chambre à coucher, bon. Eh bien, à présent, signez. » Un fracas assourdissant. La serrure venait de céder. Seul un verrou résistait encore. « Signez !» glapit Catherwall. Un anneau glacé s'appuya sur la tempe du vieillard. Fitch apposa son nom au bas de la feuille et s'effondra sur la table, évanoui. Catherwall étancha la confession avec un papier buvard. la plia avec soin, s'avança posément jusqu'à la porte et le visage souriant, ouvrit à ceux qui le poursuivaient.